Mais le sujet de ce matin, je continue mon étude que j'ai commencée sur le combat spirituel, puis il y a beaucoup de bagages à donner, puis on ne peut pas le donner dans une seule réunion. Mais on continue comme à chaque réunion, on a une partie du message, puis que ça fait quand même un contenu complet. Aujourd'hui, on continue sur le combat spirituel parce que je crois qu'on a besoin de connaître les ruses de l'ennemi. On a besoin de connaître comment ça se passe dans le monde invisible. Jésus a déjà tout payé, il a déjà tout accompli sur la croix, il y a 2000 ans. Mais qu'est-ce qu'il en est de notre vie aujourd'hui? Quel impact ça peut avoir dans la vie d'un chrétien? Le diable, il agit-tu encore aujourd'hui?
Oui.
Certainement qu'il agit encore. Est-ce qu'il est lié? Non, pas encore. Il est encore pleinement libre d'agir, sauf dans certaines restrictions. Parce que Jésus a remporté des victoires. Ça, on en a parlé l'autre jour dans l'autre étude. Pour ceux qui ne se rappellent plus de ce que j'ai parlé, vous pouvez aller sur Internet, dans le site de l'Église, vous pouvez aller écouter les autres messages. Il va en avoir d'autres par la suite, des messages dans ce thème-là. Jésus avait été loin d'Esprit Saint de force pour renverser les œuvres du diable, pour vaincre l'ennemi, puis libérer les gens. Puis ça dit que le prince de ce monde a été jeté en dehors du trône céleste. C'est plus lui qui mène. Il se confiait dans certaines armes pour maîtriser les gens, pour les rendre captifs à sa volonté. Puis ces armes-là, c'était le péché. Puis Jésus a réglé la dette du péché. Maintenant, on a accès à un nouveau système qui a été établi à partir de Jésus. On a vu quelles étaient 6 conséquences de la vie présente suite à la mort et à la résurrection de Jésus. Aujourd'hui, on va voir qu'est-ce que ça apporte dans la vie d'un chrétien, dans la vie d'un enfant de Dieu, les victoires de Jésus, il y a 2000 ans. Qu'est-ce que ça a comme impact dans notre vie, dans ma vie, dans la vie de chacun de vous qui sont ici ce matin et qui écoutent ce message-là. Puis je crois qu'il est important de connaître ces principes-là parce que, en fin de compte, c'est une nouvelle loi qui régit dans le monde spirituel, la loi de Christ. Puis à cause de ce nouveau système-là, qui n'est pas pour tout le monde, il est juste pour ceux qui donnent le vie au Seigneur, qui acceptent Jésus comme leur sauveur personnel, tu reçois le Saint-Esprit. Mais dans le Saint-Esprit, il y a plein de choses qui deviennent différentes dans ta vie. Quand la Bible a dit, celui qui est en Christ, il est une nouvelle créature, pourtant, tu te touches après que tu aies accepté Jésus, tu as de l'air pareil de l'extérieur. Mais en dedans de chacun de nous, il s'est produit quelque chose, que notre vie est complètement changée. Toutes choses sont devenues nouvelles. Mais quand on donne notre vie au Seigneur, on ne comprend pas encore c'est quoi qui est devenu nouveau. Mais on a besoin de connaître ce que Jésus a enseigné à propos de ça, de cette nouvelle vie-là qui est en Jésus. Puis une fois qu'on l'a reçue, on peut commencer à expérimenter des choses nouvelles dans notre vie. Avant, on réagissait comme ça dans telle situation, puis aujourd'hui, c'est différent. Il y a des choses qui ont changé, puis il y a d'autres choses qui peuvent changer en autant qu'on comprenne ce qui se passe dans le monde invisible, puis qu'on utilise les moyens que Dieu nous a donnés pour marcher dans la victoire. Y a-t-il un amen à cela? Pour bien comprendre, pour se mettre dans le contexte, comprendre notre nouvelle position en Jésus, il faut comprendre que quand Christ y est venu, il y a 2000 ans, il est venu pour accomplir ce qui était nécessaire pour qu'il reçoive la domination, pour qu'il reçoive le règne, pour qu'il reçoive l'autorité, le nom au-dessus de tout nom. Il fallait que Jésus fasse quelque chose pour être établi dans ce nom-là. Tout le monde le sait que Dieu est le maître de tout. Mais un Jésus était là en maître de tout, en forme de Dieu. Mais le nom de Yeshua, le nom de Jésus, parce que c'est Yeshua son vrai nom que sa mère lui a donné. On va l'appeler Jésus parce qu'on est habitué d'entendre Jésus. Le nom de Jésus, il fallait qu'il soit placé dans l'autorité suprême. Il fallait que, pour accomplir une prophétie dans l'Ancien Testament, qui est une prophétie de Daniel, au chapitre 7, le verset 13, il fallait qu'un fils d'homme parvienne à l'autorité à devenir celui qui règne au siècle des siècles. Puis ça, c'était pas automatique depuis le début de la création. Ça s'est accompli quand Jésus est venu il y a 2000 ans. le Fils de l'homme est ressuscité et est allé s'asseoir à la droite de Dieu, en forme d'un humain, corporellement humain, et en même temps pleinement divin à l'intérieur. Puis cet être-là, humain, divin, qui s'appelle Jésus, a ressuscité et est allé s'asseoir dans l'autorité de Dieu, à la droite de Dieu. Puis ce nom-là a été le nom qui est au-dessus de tout nom. Ça, c'est à l'accomplissant une prophétie de Daniel qui dit: je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, sur les nuées des cieux, arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'Ancien des jours, et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire, le règne, et tous les peuples, les nations, les hommes et toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. C'est Jésus-là. Fallait qu'il vienne, voilà 2000 ans, en forme humaine, un fils de l'homme, puis il fallait qu'il vienne accomplir quelque chose pour pouvoir recevoir ce règne-là, cette autorité-là, puis un jour, il va prendre complètement possession de son autorité, il va revenir. Mais déjà, il a reçu le titre. Il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Il est assis présentement dans les lieux célestes, dans son autorité, attendant que les autres choses doivent se produire pour qu'il prenne possession complètement de son règne sur la terre. Puis ça va être un règne qui va demeurer éternellement. C'est ce Seigneur-là qu'on sert, le Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'était dans Daniel 7, versets 13 et 14. Il fallait que Jésus vienne accomplir quelque chose sur la terre pour prendre possession de son règne. Puis ça, dans Romains 14, 9, ça nous dit: « Car Christ est mort et il a vécu afin de dominer sur les morts et sur les vivants. » Il fallait que Jésus vienne, qu'il meure et qu'il vive afin de dominer. Il fallait que c'était prévu depuis le début de la création que Jésus devait venir un jour dans la forme humaine, puis venir mourir, puis vivre, ça c'est sa résurrection, pour dominer les vivants et les morts. Il fallait qu'il accomplisse une mission. Puis Jésus l'a accompli il y a 2000 ans. Nous, on est venus au monde 2000 ans après l'histoire. On est au courant de cela. On est enseigné là-dedans par la parole de Dieu. On connaît aujourd'hui, on reconnaît aujourd'hui que Jésus est venu il y a 2000 ans. Puis quand que Jésus est venu il y a 2000 ans, il l'a dit en mourant sur la croix, que tout est accompli. La victoire contre la mort, contre l'ennemi, le diable, contre tous ses démons, la victoire sur le péché, tout ça s'est accompli. Tout ce qui avait été annoncé d'avance dans l'Ancien Testament s'est accompli quand Jésus a expiré sur la croix. Puis la mort n'a pas été capable de le retenir. Pourquoi? Parce que Jésus avait aucun péché. Puis là, Jésus a ressuscité, puis il a pris possession de son règne, puis il attend que tous ses ennemis deviennent son marchepied. Il y a un moment donné que Dieu va prendre, il va remettre l'autorité à son Christ pleinement. Mais on est encore dans ce entre les deux présentement. Il fallait que Jésus vienne payer le prix, pas juste pour qu'il reçoive sa domination, mais pour qu'il reçoive aussi toutes les bénédictions prévues pour les croyants. Parce que dans Éphésiens 1, ça nous dit: « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. » Présentement, il y a des gens qui peuvent jouir de toutes sortes de bénédictions spirituelles qui sont déjà payées pour les obtenir. Tout est déjà accompli pour qu'on puisse les saisir. Tout est là à notre disposition, mais il fallait que Jésus vienne il y a 2000 ans pour nous les accorder. Avant cela, dans l'Ancien Testament, ce n'était pas accordé comme c'est accordé aujourd'hui à l'Église, aux croyants, aux saints, aux rachetés. On est rentré dans une nouvelle ère, il y a 2000 ans, où ce que Christ il a payé ce que ça coûtait pour nous faire avoir tout ce qu'on avait besoin pour marcher dans les plus grandes et les plus précieuses promesses, pour qu'on devienne participant de la nature divine. C'est quelque chose. Aujourd'hui, par le Saint-Esprit, on est participant de la nature divine. On a reçu Dieu en nous. Notre corps est devenu son temple. Ce n'était pas comme ça dans l'Ancien Testament. Il y a des gens qui recevaient des influences ou des touches ou des révélations, des messages de la part du Saint-Esprit. Mais de là à dire que le Saint-Esprit s'installera dans notre être, dans notre vie, puis il sera en vous, puis il demeurera éternellement, c'était une promesse qui était possible seulement qu'après la résurrection de Jésus. Il fallait que Jésus règle quelque chose avant. Jésus a tout payé. Maintenant, à cause que je peux goûter à cette nouvelle vie-là, d'être en communion avec Dieu lui-même, j'ai accès à toutes les bénédictions qui sont déjà là à ma disposition dans les lieux célestes. Ben, il est important que chacun de nous comprenne c'est quoi que Jésus nous donne comme toutes ces bénédictions-là. Parce que si on ne les comprend pas, on ne les demandera pas. Si on ne les demande pas, on ne les expérimentera pas. Puis on n'aura pas les effets de ces bénédictions-là. Pour être sauvé, quand on donne notre vie au Seigneur, on est né de l'Esprit, on reçoit la nouvelle naissance, on marche en contact avec Dieu, on vit déjà quelque chose d'extraordinaire. On va en voir plusieurs points, les différentes conséquences qu'on a à cause qu'on a reçu Jésus, mais il y a plein d'autres choses qu'on doit savoir en plus. Maintenant, là, qu'il domine sur tout, Jésus, c'est lui qui décide de qui ce qui sera sauvé puis de qui ce qui va être condamné. C'est lui qui décide de qui va rentrer dans la vie éternelle et qui va en être rejeté. C'est plus les conséquences de la loi qui priment. Ou c'est plus la malédiction en Adam qui prime. Il y a quelque chose que Jésus a fait, que quand tu viens en lui, tu n'es plus sur certaines influences qui étaient là agissantes sur nous avant qu'on se convertisse. Puis on en voit d'autres points. Maintenant, c'est Jésus qui a les clés de la mort et du séjour des morts. C'est lui qui va ouvrir l'accès à quelqu'un pour qu'il rentre. Puis c'est lui qui va la fermer à ceux qui n'ont pas voulu recevoir ce qu'il avait à offrir. Puis Jésus ordonne à l'Église de le proclamer, de le dire, que c'est lui qui a été établi juge des vivants et des morts. Ça, c'est dans Actes 10, 42 qui nous dit « Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. » Puis tous les prophètes rendent de lui ce témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Gloire à Dieu! Maintenant, j'ai accès à recevoir le pardon de mes péchés. Puis toutes les bénédictions sont là possibles grâce à ce que Jésus a été établi par Dieu son Père à être le juge des vivants et des morts. Mais il fallait que Jésus paye pour cela, pour l'obtenir. Suite à notre repentance, là, les gens peuvent recevoir le salut qui est dans le Saint-Esprit. Premièrement, tu es pardonné quand tu te repens, tu demandes pardon au Seigneur. Tu es pardonné de tes péchés, tu demandes son Saint-Esprit, il te donne son Saint-Esprit. Tu nais de nouveau, il y a une nouvelle communion qui se fait entre toi et Dieu. Tu es participant de la nature divine, puis tu as toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes sont à toi maintenant. Réalise ta position en Jésus, puis saisis toutes ces promesses-là qui sont pour toi. Parce que dans Actes 2, 38, c'est ça qui était le message prêché par les apôtres. Il disait, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé dans le nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Gloire à Dieu, merci Seigneur. Nous avons maintenant une libre entrée dans le sanctuaire. On a maintenant une libre entrée, une entrée libre. Qu'est-ce que ça veut dire, une entrée libre? Mais si je vais au cinéma et c'est marqué entrée libre, ça veut dire, casse-toi pas la tête, tu peux rentrer et ça ne coûte rien. Pourquoi que ça ne coûte rien pour rentrer? Parce qu'il y a quelqu'un qui a réglé la facture. La dette est payée, tu n'as rien à payer, c'est gratuit. Si tu veux avoir la vie éternelle, si tu veux avoir le pardon de tes péchés, entre. C'est gratuit. C'est ça qui est écrit dans Hébreux 10. « Ainsi donc, mes frères bien-aimés, ça c'est au verset 19, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire. À cause du sang de Jésus, à cause que Jésus a payé, Jésus a versé son sang à sa mort pour me donner cette libre entrée gratuitement de rentrer dans la présence du Dieu très saint. Par une nouvelle route, une route vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile de sa chair. Ça veut dire qu'on peut maintenant avoir accès à Dieu le Père dans le lieu très saint. Par une nouvelle route que Jésus nous a ouverte, c'est une route gratuite, un accès gratuit. Ça, je vous parle de ça, tout le monde en entend parler régulièrement, puis c'est correct de se rappeler ça, tout ce que je vous dis là. Puis ça, faut pas oublier ça. Si vous êtes sauvés aujourd'hui, c'est pas parce que vous êtes meilleurs que les autres. Vous n'avez pas à vous péter les bretelles, vous n'avez rien fait qui pouvait mériter le ciel. Vous avez juste décidé d'accepter le cadeau qui vous est offert à travers de l'œuvre accomplie de Jésus il y a 2000 ans. Il a payé, il a versé son sang, il est mort pour vous, mais il ne pouvait pas être retenu par la mort. Il est ressuscité, il est allé à la droite de Dieu, puis maintenant, il y a plein de bénédictions spirituelles qui sont là pour vous, parce qu'il vous les donne gratuitement. Une libre entrée. Maintenant, qu'est-ce que ça donne comme nouvelle position qu'on a en Jésus? Qu'est-ce que ça donne comme avantage à un croyant qui donne sa vie au Seigneur, il naît de nouveau? Qu'est-ce que ça va changer dans sa vie? Il y a plein de choses qu'on va voir. On n'aura même pas le temps de tout voir ce matin, toutes les choses que Dieu a changées. Mais déjà, on en saisit quelques-unes, puis les autres semaines plus tard, on en verra d'autres. Il faut saisir ça. Écrivez ça, apprenez-les par cœur, parce que c'est puissant, ça, là, qu'est-ce qu'on va voir. C'est des choses qui vont changer votre vie. Présentement, la première chose que ça nous donne, je ne les ai pas toutes mis en ordre, une par derrière l'autre, comme une ordre numéro un, numéro deux, mais moi, je suis obligé d'en parler de une, mais c'est pas une plus importante que l'autre, c'est tous les avantages s'obtiennent au même moment. Mais je commence par, nous sommes des êtres ressuscités. Première chose qu'on doit savoir. Puis un jour, nous allons tous aussi ressusciter dans notre corps. Dans un corps qui n'est pas celui-là. Celui-là va mourir et va tomber dans la poussière. La chair et le sang ne peuvent hériter du royaume de Dieu. C'est un nouveau corps. Un corps céleste. Un corps éternel. Un corps glorieux. Un corps qui, autant qu'avant, était semi-méprisable, il va ressusciter glorieux. Il est infirme, il va être plein de force. Un corps qui ne pourra plus mourir et qui va vivre éternellement. Un corps qui ne sera plus tenté par le péché. Un corps où ce qu'on va être d'une attitude d'obéissance à Dieu sans aucune rébellion. Ça va être extraordinaire. Mais tout ça, là, on va le voir dans quelques points, qu'on était tous des morts devant Dieu avant de venir à Jésus. Là, vous vous dites peut-être, c'est quoi tu veux dire? Mais même si tu vois les gens marcher sur les deux pieds, puis ont de l'air à parler, puis ont de l'air à avoir du fun dans cette vie, devant Dieu, si cette personne-là n'a pas passé par le pardon puis de recevoir le Saint-Esprit, c'est une personne qui est morte devant Dieu. Le mot « mort » veut dire « séparé ». Le mot « mort », ça veut dire « séparé ». Quand que moi, mon corps meurt, c'est que mon âme sort de mon corps. Je suis séparé de mon corps. Mais devant Dieu, les gens qui sont vivants dans leur corps, mais qui ne marchent pas en contact avec Dieu, c'est des morts. C'est des gens séparés. Séparés de quoi? Séparés de Dieu. Ils marchent sans Dieu dans le monde. La communion avec Dieu n'est plus là. La communion avec Dieu n'est pas là parce que c'est impossible qu'il n'y ait une, parce que leur péché, la question de leur péché n'est pas encore réglée. Il faut premièrement tu passes par une repentance puis recevoir le pardon des péchés par la foi en Jésus. Là, son sang te purifie de tous tes péchés. Là, tu peux recevoir la nouvelle nature. Tu reçois le Saint-Esprit dans ta vie. Là, tu retrouves la communion. Là, tu deviens un être ressuscité. Avant ça, tu es un mort sur deux pattes. Tu es comme un mort vivant. spirituellement parlant. On est des zombies. Les gens sont zombies. C'est des morts vivants parce qu'ils marchent sans Dieu. Mais quand tu te repens et tu crois que Jésus a payé ta dette pour tes péchés, puis tu le reçois, puis tu lui dis, Seigneur, je suis un homme pécheur, puis je te demande pardon pour mes péchés, puis je reconnais que je ne suis pas capable de gagner mon ciel, mais je crois que tu es mort sur la croix pour régler le problème de mes péchés. Tu as versé ton sang pour me pardonner. Tu as pris ma place à la croix. Je t'accepte comme mon sauveur personnel. Je reçois ton pardon par la foi, parce que tu me l'offres gratuitement. Puis la personne, à ce moment-là, le sang de Jésus purifie tout de ses péchés. Puis maintenant, Seigneur, entre dans ma vie. Je reçois ton Saint-Esprit. Puis là, la Bible, elle dit, tu nais de nouveau. Tu deviens une nouvelle créature. Autant que tu étais une personne morte avant, puis maintenant, tu es une personne ressuscitée. Gloire à Dieu! Parce que dans Éphésiens 2.1, ça nous le dit qu'on était mort. Puis dans Éphésiens 2.6, ça dit, il nous a ressuscités ensemble. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. On est assis en Jésus dans les lieux célestes. Au milieu, il y a toutes les bénédictions spirituelles qui nous entourent. C'est tout là, à notre portée, parce qu'on est des êtres ressuscités. Merci Seigneur, qui est toute grâce à Jésus. Cette personne-là qui est ressuscitée parce qu'elle a passé par Jésus pour le recevoir, parce que Jésus dit « Je suis la porte ». Ceux qui essayent de rentrer par ailleurs, c'est des voleurs, des brigands. Et celui qui entre par moi sera sauvé. C'est ça que ça dit. Faut que tu passes par Jésus, il n'y a pas d'autre chemin. Il y a un seul nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous puissions être sauvés. C'est le nom de Yeshua, alias Jésus en français. Mais si tu parles aux Hébreux, ils l'appellent Yeshua. Tu parles aux Juifs messianiques, ils l'appellent Yeshua. C'est ça son vrai nom. Parce que c'est juste dans les années 1500 que son nom a été changé par la religion catholique. Ils ont imposé le latin. Ils voulaient dissocier le nom de Yeshua des Juifs. Fait qu'ils ont changé son nom pour Jésus. Mais en réalité, c'est Yeshua son vrai nom. Puis c'est pas mal de le dire, Yeshua. Puis c'est même le vrai nom qu'on devrait utiliser. C'est le nom que l'ange a donné à sa mère. Il s'appellera du nom de Yeshua. Dans notre Bible en français, c'est traduit dernièrement, nos Bibles. Là. Ils prennent le nom Jésus, mais c'est Yeshua. Mais si tu passes par lui, Jean 5, 24, il dit, « Celui qui écoute ma parole, il croit en celui qui m'a envoyé, a la vie éternelle. Il vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. » Maintenant, vous êtes des êtres vivants. Vous n'êtes plus des morts. Quand tu as donné ta vie au Seigneur, vous êtes rendu vivant devant Dieu. Dieu vous considère comme des êtres vivants. Puis quand il dit, tu ne viendras pas en jugement. Le jugement dernier n'est pas pour les croyants. Il n'est pas pour ceux qui ont reçu le pardon de leurs péchés. Le jugement dernier est pour ceux qui l'ont refusé, le pardon. Tu as maintenant la vie éternelle. C'est ça que la Bible nous dit. Puis Jésus, il a dans sa volonté de rien perdre de ce que le Père lui a donné. C'est ça qu'il nous dit dans Jean 6. Il dit, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. Voyez-vous, les humains ont besoin de deux résurrections. Tu as la résurrection de ton âme, de ton esprit. Quand tu viens à Jésus, il te ressuscite. Il nous a ressuscités ensemble, puis on est déjà assis dans les lieux célestes. Ça, c'est mon esprit, ça, c'est pas mon corps. Mon corps est encore sur la terre. Je suis pas assis dans le ciel présentement, dans mon corps, mais mon esprit, oui, je suis assis en Jésus-Christ, dans les promesses de Dieu. Mais il y a un jour que Dieu a dit qu'il va nous ressusciter au dernier jour. Il va donner la vie à notre corps. Notre âme est déjà ressuscitée, on a la vie éternelle, on est un vivant, mais il y a un jour qui va nous donner un corps éternel, puis on va vivre éternellement avec le Seigneur. Gloire à Dieu. Ça, c'est une vérité. Il y en a plusieurs autres qu'on va voir. Accrochez-vous à cela. Si l'ennemi essaie de vous faire douter de votre salut parce que il vous dit, voyons, regarde, tu es encore dans des péchés, là, Dieu t'a rejeté. Crois que l'accès dans la présence de Dieu est toujours là. Jésus a payé pour tes péchés du passé. Il a payé aussi pour tes péchés présents. Tu peux te repentir de tes péchés puis demander encore pardon au Seigneur puis te pardonne encore. Il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Gardez votre foi là-dedans. Abandonnez pas cette espérance-là, parce qu'il n'y a pas d'autre manière de rentrer. C'est le seul moyen. Commencez pas à penser, « Oh, je suis rendu bon dans ma vie, je fais une bonne vie, je pense que je vais gagner mon ciel par mes performances. » On est en train de se détourner que c'est par la foi, puis par le sang de Jésus que j'ai accès, puis c'est encore ça qui me donne de rentrer. Si on devient religieux, puis qu'on ne croit plus que c'est le sang de Jésus, on peut être religieux puis assis dans une église évangélique qui prêche que c'est la grâce qui nous sauve. On peut même sortir de l'église puis dire, moi, je ne crois pas à ça, je deviens musulman, je crois que c'est la religion musulmane qui me sauve. Tu peux te perdre. Restons dans le chemin de la foi. Le chemin étroit et resserré. Le chemin qui nous donne accès à toutes les promesses de Dieu. Amen. Un deuxième point qu'on a en Jésus-Christ, c'est quelque chose qu'il faut saisir absolument pour plus que vous vous laissiez faire dans votre vie. On parle souvent de combat spirituel, mais si tu ne comprends pas qu'est-ce qui s'est passé en Jésus, tu crois toutes les menteries que l'ennemi peut te mettre dans la tête, puis il peut te mélanger, puis là, il peut t'amener dans des doutes, puis commencer à abandonner ta confiance que tu as en lui, puis finalement finir par te dérouter. Il ne faut pas se laisser dérouter. Quand tu arrives en Jésus puis que tu nais de nouveau, nous sommes corporellement morts et ensevelis devant Dieu. Je m'explique. Autant qu'avant qu'on était mort spirituellement puis on était debout physiquement, tu viens en Jésus, il te ressuscite spirituellement. Ton âme ressuscite. Tu es encore vivant humainement, mais en même temps que tu ressuscites, il fait mourir ton corps. Il faut comprendre que quand Jésus est mort sur la croix, il prenait ma place. Et moi, j'ai pris la sienne. Quand Jésus est mort puis il est enseveli, 3 jours après, il est ressuscité, il faut croire, comme on va le voir dans les passages suivants, puis il est important de saisir ça. Daniel Poulain, il a été cloué sur la croix de Jésus, puis il est mort en Jésus. Le corps de Daniel Poulain est encore vivant, mais spirituellement, mon corps est mort et enseveli. Puis autant que Christ est ressuscité des morts, je suis né, je suis ressuscité spirituellement vivant devant Dieu. Là, vous allez me dire, moi, mais à quoi ça sert? On va comprendre que dans le monde présent dans le monde spirituel, ça a une grande importance, cette vérité-là. Dans Romains 6,4, nous dit ça. Romains 6,4. Nous avons donc été ensevelis. Oh! Je suis un enterré devant Dieu. Je suis enseveli. Je suis mort et enseveli. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. Afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. Ça, c'est exactement ce que je venais de vous expliquer. Quand que Jésus, il dit, on est ensevelis avec Jésus, quand Jésus il a été enseveli dans sa mort. C'est ça que ça dit. Le baptême en sa mort, c'est enseveli dans sa mort. Jésus, après sa mort, a été mis dans le tombeau pendant 3 jours de temps. J'ai été enseveli avec Jésus en même temps. Puis comme Christ a ressuscité, moi aussi je suis ressuscité en nouveauté de vie. C'est ce que ce verset-là nous dit. On va continuer à lire d'autres versets qui vont nous amener à comprendre c'est quoi qui se passe à ce moment-là. Romains 8:2. À cause que nous sommes morts, physiquement devant Dieu, même si on est encore debout devant Dieu, on est mort physiquement devant Dieu, à cause de notre mort, nous sommes régis par une nouvelle loi. On va voir c'est quoi, Romains 8:2. En effet, la loi de l'esprit et vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Quand tu viens en Jésus, tu reçois la nouvelle naissance, tu es un être ressuscité. Il y a une nouvelle loi qui embarque, c'est la loi de l'esprit et vie. ça, cette nouvelle loi-là dans laquelle tu es régi, ça délivre de la loi du péché et de la mort. C'est quoi ça, la loi du péché et de la mort? Mais la loi de Moïse, c'était la loi du péché qui conduisait le monde à mourir devant Dieu. Dans un sens spirituel, les gens qui pratiquent le péché font juste démontrer qu'ils sont morts devant Dieu. C'était comme les Juifs, ils pensaient de gagner leur salut, gagner leur ciel en pratiquant la loi, mais la minute que les gens transgressaient la loi, ils se faisaient accuser par la loi. Eux autres pensaient de s'en sortir, mais ils faisaient juste comme se caler davantage. Parce que la Bible disait dans la loi, « Maudit est quiconque ne pratique pas tout ce qui est écrit dans la loi. » Puis la Bible, elle dit aussi, « Il n'y en a point de juste, pas même un seul. » Ça veut dire qu'il n'y a pas une seule personne sur la terre a réussi de pratiquer cette loi-là pour parvenir au salut. La loi ne faisait que leur donner la condamnation. Mais là, quand j'arrive en Jésus, ça dit la loi de l'Esprit-Vie, qui est une nouvelle loi que je suis régi présentement, me libère de la loi du péché et de la mort. Je ne suis plus sous l'emprise des jugements de la loi de Moïse. Je suis sur un nouveau régime, une nouvelle loi qui régit ma vie. C'est la loi de Christ. C'est un nouveau régime. Un enfant de Dieu n'a pas à se soumettre au principe de la loi et à commencer à pratiquer la loi pour mériter les bénédictions de la loi. En Jésus, tu es mort spirituellement devant Dieu. Tu es mort. Tu viens à Jésus, tu reçois. Excusez. En Jésus. Tu ressuscites du mort que tu étais, mais ton corps meurt à la loi, fait que tu es plus influencé à ce régime-là de la loi. Tu marches maintenant dans une nouvelle loi qui est la loi de Christ. On va voir Romains 7 qui nous parle de ça aussi. Romains 7, 4. Quand on commence à saisir ces vérités-là, là, nos yeux vont s'éclaircir sur certaines. Quelle est l'approche que je dois avoir face à la loi de Moïse, aux pratiques de la loi de Moïse? Est-ce que je dois me laisser influencer par la loi de Moïse, les lois, les 613 préceptes, puis tous les principes de justification par des sacrifices d'animaux, puis toutes les pratiques de la loi juive? Il dit, Romains 7, 4, « De même, mes frères, vous aussi, vous avez été, par le corps de Christ, mis à mort en ce qui concerne la loi. » C'est clair. On est mis à mort. Présentement, quelqu'un qui est en Jésus, il a été mis à mort face à la loi. Pour que vous apparteniez à un autre. À celui qui est ressuscité des morts. Ça, c'est Jésus. Afin qu'on porte des fruits pour Dieu. Car lorsqu'on était dans la chair, les passions des péchés provoqués par la loi agissaient dans nos membres, de sorte que nous portions des fruits pour la mort. Mais maintenant, ça c'est le plus important que je veux que vous compreniez, maintenant, quand étant Jésus, maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus. De sorte que nous servions dans un esprit nouveau et non selon la lettre qui a vieilli. Quand tu es en Jésus, tu es rendu mort face à tout ce système de loi-là, de la loi de Moïse. Tu n'es plus sous ce régime-là. Tu n'as même plus à penser de te justifier en te faisant circoncire, en pratiquant le sabbat, en faisant ci, en faisant les fêtes, les lunes, puis pratiquer tous les principes, les rituels juifs. C'est plus nécessaire pour toi, tu es mort devant Dieu. T'es un mort, autant que t'es un vivant spirituellement, parce que t'es en contact avec Jésus, mais physiquement, t'es un mort, puis t'es plus régi par cette loi-là. Maintenant, t'es régi par une nouvelle loi, la loi de l'Esprit de vie, la loi de Christ, puis ça te fait servir Dieu d'une nouvelle façon. Ça te fait servir Dieu dans un esprit nouveau. C'est ça que ça nous dit au verset 6. Ça te fait même appartenir à un autre. Tu n'es plus sous ce régime-là, tu appartiens à Dieu. Dans cette nouvelle position qu'on a devant Dieu, le fait d'être mort face à la loi, l'acte ne nous condamne plus. Puis les démons sont désarmés. Vous allez comprendre pourquoi. Dans Colossiens 2, ça revient encore avec la même idée. Colossiens 2, 12. C'est-tu compliqué? Tout le monde saisit? Oui, mais il faut revenir tout le temps avec ces idées-là. Colossiens 2, 12, ça nous dit: ayant été enseveli avec lui par le baptême. Ça, c'est en passant, c'est pas le baptême d'eau. C'est le baptême du Saint-Esprit. Parce que nous avons tous été baptisés dans son esprit pour former un seul corps. C'est le baptême spirituel. Quand tu viens à Christ, tu revêts Christ. Tu es revêtu de sa justice, c'est le salut. Mais quand tu es venu, tu es enseveli avec lui par le baptême. Quand du baptême spirituel que tu as reçu, tu as été enterré avec Jésus. Ça le répète encore, cette idée-là. Mais vous êtes aussi ressuscité en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a resté des morts. Il dit, vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Maintenant, tu reçois le pardon de toutes tes offenses. Puis t'es maintenant, autant que t'étais mort avant, il t'a ressuscité, puis tu marches dans une nouveauté de vie. Il a effacé, ça c'est au verset 14, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il a effacé les lois, les principes, je ne parle pas des 10 commandements, mais je parle de la loi de Moïse. Il a effacé l'acte qui nous condamnait. On n'est plus sous ce régime-là. Ça subsistait, ça, pour nous amener une condamnation éternelle. Il l'a détruit, l'acte, en la clouant à la croix. Puis le verset 15, il a dépouillé les dominations, les autorités, il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Quand on parle du dépouillement des puissances des ténèbres, c'est qu'ils ont été désarmés. Maintenant, le diable n'a plus de droit légal d'agir sur les chrétiens. Le diable n'a plus de droit légal d'agir sur ceux qui sont nés de nouveau. C'est à quoi son droit au diable? Ah, ce gars-là, il a péché contre la loi de Moïse. J'ai le droit d'agir dans sa vie puis de le garder captif. Mais maintenant, tu es dégagé face à cette loi-là. Si tu confesses ton péché, tu en es automatiquement pardonné, puis le diable n'a plus de droit d'agir sur toi, il n'a plus le droit d'avoir un accès dans ta vie, parce que ton péché s'est réglé. Ça peut arriver que tu retombes, c'est sûr que tu vas retomber, tu vas en faire d'autres des péchés dans ta vie. Tu poursuis le chemin de dire, je veux vivre comme Jésus, je veux être en contact avec, je veux me sanctifier, je veux me consacrer au Seigneur, mais tu vas avoir des rechutes, c'est sûr. Mais, à chaque fois que tu tombes, reste pas à terre. Crois que le sang de Jésus peut encore te pardonner de tes péchés. Confesse ton péché à Dieu, demande-lui pardon, le sang de Jésus va te purifier de tous tes péchés, puis ça va rétablir ta communion avec lui, puis le diable n'a plus d'emprise sur toi, il a été désarmé. Il n'a plus d'âme. L'âme dans laquelle il se confiait, c'est le péché. À cause du péché, il pouvait te garder captif. Mais maintenant que tu es libéré du péché, tu es mort au péché, il n'y a plus d'emprise sur toi, c'est comme si tu es beurré de savon, puis essayera de t'attraper, puis pouf, tu revoles, il n'y a plus d'emprise. Mais ce savon-là, c'est le sang de Jésus.
Oui. Par rapport au verset 12, je viens de parler de baptême. Dit, lorsqu'on est baptisé, on reçoit l'Esprit de Christ. Alors, quand on reçoit l'Esprit de Christ en se repentant, on fait ça nos péchés. Tu dis qu'on est baptisé, on reçoit le... Mais pourquoi les gens, quand ils viennent à Jésus, ils ne parlent pas en d'autres langues, ces choses-là?
C'est parce que faut comprendre qu'il y a... Le mot baptême a été appliqué à plus qu'une chose. Il y a le baptême d'eau, il y a le baptême d'être revêtu de Christ pour le salut, Il y a le baptême de feu, de puissance, qui est le revêtement de la puissance de Dieu. C'est des choses distinctes. Une personne peut avoir reçu le salut puis pas encore avoir été revêtue de la puissance. C'est quelque chose que tu dois redemander à Dieu, même une fois que tu l'as reçu. Il faut que tu cherches à toujours continuellement rempli du Saint-Esprit. C'est quelque chose qui n'est pas permanent, c'est quelque chose de renouvelable. Fait que tu viens à Jésus, tu revêts Christ pour ton salut, tu es greffé au corps de Christ, mais il faut que tu saches aussi qu'il y a aussi le revêtement de puissance pour être un témoin. Ça peut être deux expériences distinctes, comme ça peut être la même expérience qui se vend en même temps. Être baptisé du Saint-Esprit, puis en même temps que tu es sauvé. C'est que ça a fait beaucoup de divisions, ce sujet-là, parce que les églises pentecôtes disaient que les baptistes n'étaient pas sauvés parce qu'ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit, ou ils n'ont pas vu parler en langue, puis ils disent qu'il n'est pas sauvé. C'est pas ça que la Bible explique. Ils ont revêtu Christ pour le pardon de leurs péchés. C'est pas tout le monde qui va parler en langue, mais il faut que ces gens-là aspirent à la puissance de Dieu. Puis ça, c'est une autre chose, d'être baptisé du Saint-Esprit. Il vous baptisera d'Esprit Saint et de feu. C'est qu'il faut croire qu'il y a plus que le salut. Moi, je peux venir à Jésus et dire « J'ai été sauvé » puis me contenter de cela, mais il y a bien plus que ça que le salut. Il y a aussi la puissance qui peut accompagner le croyant.
Quand Jésus parle à Nicodème aussi, il dit qu'il faut qu'il naissiez d'eau, naître d'eau et d'esprit.
Oui.
Puis Nicodème dit « Comment ça peut se produire ?» Jésus dit « Le Saint-Esprit, c'est comme le vent. On essaie d'oublier où il va,
oui.
Et c'est très calme. » Et ce n'est pas nécessairement tout le temps des manifestations. Ce verre, on ne sent pas passer autour de nous. La renaissance, c'est la même chose.
Des fois, tu es né de nouveau.
Ouais, c'est comme ça.
Ta vie commence à changer parce que tu as donné ta vie au Seigneur, mais tu n'as pas encore expérimenté parlant en langue, prophétiser, puis la puissance des guérisons. Puis c'est pas tout le monde qui a tous les dons. Puis tu peux avoir un don, pas avoir l'autre don. Mais puis même si tu en as reçu un don, faut que tu continues à aspirer à tous les dons. C'est quelque chose que toute ta vie, il faut t'aspirer de voir la puissance de Dieu. Mais le salut, c'est une chose. Le baptême, baptisant en Jésus-Christ pour le pardon de nos péchés, c'est de revêtir Christ. Tu as une nouvelle nature, une nouvelle vie qui commence. Tu as le revêtement de puissance pour les ministères. Mais ça, c'est une autre affaire. Puis ça, il faut le démêler pour arrêter de juger les baptistes parce qu'ils n'aspirent pas à la puissance. Mais il y a des baptistes qui croient à la puissance aujourd'hui. Il y a des baptistes, j'en connais des églises baptistes qui croient à la puissance, croient au revêtement du baptême du Saint-Esprit. Ils ont aspiré à cela après avoir été sauvés, puis ils ont vécu des dons spirituels. Ça peut arriver à n'importe quel moment dans ta vie d'en recevoir. C'est juste l'important, c'est de savoir que c'est là. Mais quand tu viens en Jésus, t'es un mort. Spirituellement et vivant physiquement, mais quand tu viens à Jésus, tu deviens vivant spirituellement, puis tu es mort physiquement, pour plus être influencé par la malédiction d'Adam, pour plus être influencé par la malédiction de la loi. Christ est devenu malédiction pour nous. Maintenant, on n'est plus sous aucune malédiction de ce qui nous affectait avant de venir à Jésus. C'est ça que ça nous dit dans Galates 3. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit quiconque est pendu au bois. Jésus est devenu malédiction pour que moi je sois plus sous l'influence de la malédiction. Il est devenu péché afin que je sois plus sous l'influence du péché. Il a été condamné par la loi, pas parce qu'il en avait fait des péchés, parce que les péchés de l'humanité étaient sur lui, il les a pris, il a été condamné par cela pour nous donner ce nouveau mode de vie, de vivre sans me sentir condamné par la loi de Moïse. Parce qu'il n'avait des principes dans la loi de Moïse qui condamnaient. Puis si on dit qu'on pense qu'on sera sauvé par la loi, chaque fois que le sabot, on fait plus qu'un kilomètre, on est déjà des condamnés. C'était déjà dans. T'as pas le droit de marcher plus qu'un kilomètre dans ta journée. Fait que si on pense qu'on pouvait être justifié par la loi, chaque fois que vous avez transgressé ce principe-là, vous êtes tous sur la condamnation. On n'est plus sous cette condamnation-là. Comprenez-vous? Maintenant, on est sur la loi de Christ. Gloire à Dieu. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Mais commencez à moi, je vous conseille de décrire ces versets-là, puis d'aller les lire, puis de les assimiler. C'est important qu'on réalise que vous êtes des êtres ressuscités, Vous êtes déjà assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Toutes les bénédictions spirituelles sont là. Puis en même temps, face au monde, le diable n'a plus de droit légal d'agir sur vous. Pourquoi? Parce que vous êtes des morts, selon la loi. Christ a réglé la dette de vos péchés dans cette nouvelle nature. L'ennemi va essayer d'agir, il ne peut pas. Si tu tombes dans un péché, il pourra agir. C'est ça que la Bible nous dit, ne donnez pas accès au diable. Il pourrait agir, mais si tu confesses ton péché, t'es libéré, il n'y a plus d'emprise. Tu peux vivre des victoires. On parle de combat spirituel, ça n'est un élément.